Bonjour, vous êtes sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté. Avant de commencer cette émission de bien-être, de détente, installez-vous confortablement dans un endroit tranquille. Vous pouvez baisser les lumières et aussi vous déchausser pour être plus à l'aise. Asseyez-vous sur un tapis et pour ceux qui sont moins souples, sur une chaise ou un fauteuil bien dur de façon à ne pas vous affaisser car il est très important de garder son dos bien droit pour éviter des tensions et des douleurs. Dans la première partie, nous allons parler aujourd'hui du Panchen Lama, puis nous enchaînerons avec quelques petits exercices physiques. Alors je rappelle que ce sont des exercices très basiques car il est très difficile de présenter une grande diversité de ceux-ci et de difficultés croissantes. Toutefois, si vous intéresse, vous pouvez toujours aller consulter mon site qui est étirementyogaaveyron.com ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche-de-Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Nous ferons également une petite pratique de méditation bouddhiste tibétaine et nous terminerons sur la phrase de la semaine. Est le Panchen Lama. Ce titre prestigieux construit à partir d'un terme sanskrit, pandita, qui signifie érudit, et tibétain chenpo, qui signifie grand, fut offert en hommage par le 5e Dalai Lama autour des années 1600 à son précepteur, qui était l'abbé du monastère du Tashilonpo, à Shigatse, qui est la deuxième ville du Tibet. Rien, désormais, ne devait séparer le grand érudit de l'océan de sagesse. Tous deux, unis par ce que les Tibétains nomment la relation lune-soleil. Plus forte que la fraternité, elle est fondée sur deux principes. La reconnaissance au-delà de la mort humaine et l'enseignement des rituels les plus profonds. Vœux plus ou moins pieux, car on sait que les deux prélats eurent parfois de sérieux accrochages, mais qui se terminèrent toujours par la réconciliation et ne mirent jamais en doute la fidélité de l'esprit de l'un à l'autre. Le 10e Panchen Lama, mort en 1989, n'eut jamais, malgré les efforts des Chinois, un mot de désaveu pour le Dalai Lama. Mieux, il conclut sa dernière apparition publique en s'interrogeant sur l'occupation de son pays par la Chine et sur ses effets plus néfastes que bénéfiques. D'où les doutes de son entourage sur la nature de sa mort subite. Quoi qu'il en soit, une commission fut nommée très officiellement par les autorités d'occupation chinoise pour chercher sa réincarnation. Elle était présidée par Chadrel Rinpoche, placé à la tête du Tashilonpo. Ce dernier semblait avoir l'oreille des Chinois qui le sermonnèrent afin qu'il respecte scrupuleusement tous les rituels propitiatoires. Et c'est ce qu'il fit. 28 candidats furent ainsi sélectionnés, dont 3 retenus et, comme il convenait, transmis au-delà de l'Himalaya au Dalai Lama pour qu'il parachève le choix, consultant les oracles et interprétant les songes. Le choix se porte sur Gendun Chokinima, qui est le fils d'une famille de nomades de la région de Nakshu, à quelques centaines de kilomètres au nord de Lhasa. Il le fit savoir le 14 mai 1995. Alors que partout au Tibet, la nouvelle du retour du Panchen Rinpoche entraînait réjouissances et festivités, les Chinois prirent la chose très mal. Exhumant une tradition remontant aux empereurs manchus et dénoncée à leur chute en 1911, ils prétendirent avoir le droit d'exercer leur propre choix par un tirage au sort. La vérité est qu'en 1792, un empereur manchou, qui s'appelait Qianlong, avec l'accord plus ou moins amusé du Dalai Lama, décida d'instituer un rituel au cours duquel, devant la statue de Bouddha, on tirerait au sort parmi 3 noms écrits sur une plaquette d'ivoire et enfermés dans une urne d'or. Mais écrit par qui? Choisi par qui? Par le Dalai Lama ou le Panchen Lama. Et puis, il faut se souvenir, l'empereur était bouddhiste, éduqué par des précepteurs tibétains, entièrement dévoué dans le domaine spirituel au Dalai Lama. Enfin, on souligne au bureau du Dalai Lama que cette procédure folklorique ne fut utilisée que 3 fois en 2 siècles et pour la dernière fois en 1888. Le 10e Panchen Lama, tout comme l'actuel 14e Dalai Lama, s'en passèrent fort bien. N'empêche, on enrageait à Pékin cet été 95 devant cet acte de résistance réunissant tous les Tibétains. Alors, on commença par enlever l'enfant et sa famille. Destination inconnue. Chadrai Rinpoche, l'abbé scrupuleux, fut arrêté avec son secrétaire. On envoya des brigades de rééducation dans les monastères et en premier lieu à Shigatse. Voici les consignes. Premièrement, tous les moines doivent rester calmes. Puis, aucun mouvement corporel ne sera toléré et les têtes ne devront pas bouger. Personne ne sera autorisé à aller aux toilettes pendant la réunion. Toute personne n'observant pas ces règles sera considéré comme soutenant Chadrai Rinpoche et sera sévèrement puni. La foule néanmoins accueillit les officiels à coups de pierre et la troupe fut déployée autour de Shigatse. La révolte des moines se traduisit par des affiches sur lesquelles on pouvait lire seul le chef de tous les Tibétains et l'apôtre de la paix dans le monde, c'est-à-dire le Dalai Lama, est habilité à reconnaître la réincarnation du Panchen Lama. 48 mois ne furent arrêtés. Et l'un se suicida plutôt que de se renier. On apprit aussi que Samchem Lobsang Gyatsen, le moine rouge de sinistre renommée qui avait été placé à la tête du Tashilumpo par les Chinois pendant la révolution culturelle, dirigerait désormais le monastère. Le 17 novembre 1995, 75 grands lamas furent convoqués à Pékin, le pistolet sur la tempe. Certains d'entre eux sont de longue date des otages de la Chine, qui cherchent encore une fois à se servir d'eux. On dit à Lhasa que le gouvernement a ainsi promis à Papala Gelegsh Rinpoche de libérer son fils, qui est condamné pour meurtre, s'il prenait position contre le Dalai Lama. Aujourd'hui, à l'abri des regards indiscrets et comptant sur l'indifférence de l'opinion mondiale, les Chinois ont procédé à leur parodie. Tout en développant une campagne d'une violence inouïe contre le Dalai Lama. Gros titre à la une du Xizang Ribao, qui est le quotidien chinois du Tibet. Des slogans apposés sur les murs des écoles par les soldats chinois. Des menaces et des déploiements de force. Une campagne qui risque bien d'avoir le résultat inverse, en rapprochant encore plus les Tibétains de leur chef spirituel. Aux yeux du monde, l'illusion d'une liberté religieuse au Tibet occupée aura fait long feu. Et Nicolas Burns exprimait le point de vue du président Clinton en déclarant que l'Amérique était découragée et vraiment mécontente de l'attitude chinoise qui lui inspire de l'inquiétude. À Paris, le Quai d'Orsay tente toujours de comprendre comment un enfant de 6 ans peut déclencher tant de remous sur le toit du monde. Et ce n'est peut-être qu'un début. Qui a écrit il y a longtemps qu'une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Ironie de l'histoire, c'est Mao Tse-tung. Sur CFM avec Josiane Andrieux pour votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h mais aussi tous les dimanches à 9h et aussi sur internet. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous recherchez CFM Radio Villefranche et vous cliquez sur Namasté. Alors nous allons passer aux petits exercices physiques. Donc soit vous êtes assis sur votre chaise avec les jambes parallèles entre elles, toujours le dos bien droit, la tête bien droite dans l'axe. Soit vous êtes debout, pareil, les jambes bien parallèles entre elles, le dos droit, la tête droite. Et on commence par monter et descendre les épaules tranquillement, en gardant bien le dos droit, de façon à bien lâcher les tensions. Donc n'hésitez pas à bien monter et descendre les épaules tranquillement. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire ce mouvement à toute rapidité. Et on fait ce mouvement une dizaine de fois. Maintenant, toujours pour lâcher les tensions au niveau du haut du dos, on va amener les épaules en les montant une fois devant, puis on monte les épaules et on les amène une fois derrière. On monte les épaules, on amène devant, on monte les épaules et on amène derrière. Et vous continuez ce mouvement d'avant en arrière, tranquillement, les bras le long du corps. Relax. Pour bien lâcher les tensions, on fait ce mouvement une dizaine de fois. Maintenant, vous allez tourner la tête à droite en expirant et en suivant du regard le mouvement. Attention, vous ne tournez pas le buste reste bien droit. Puis en inspirant, ramenez la tête dans l'axe. Expirez, tournez la tête à gauche, puis inspirez, ramenez la tête dans l'axe, continuez tranquillement ce mouvement en associant bien la respiration au mouvement, en gardant le dos complètement fixe. C'est juste la tête qui tourne d'un côté et de l'autre, et vous suivez du regard le mouvement. Maintenant, vous allez en inspirant monter la tête, regarder vers le plafond, et en expirant descendez la tête, regardez vers le sol. Donc vous inspirez, montez la tête, regardez vers le plafond. Expirez, baissez la tête, regardez vers le sol. Continuez tranquillement ce mouvement. Pareil, c'est un mouvement que vous pouvez faire entre 5 et 10 fois quotidiennement. Suivez bien du regard le mouvement. Associez bien votre respiration au mouvement. Maintenant, on arrête ce petit mouvement et on va serrer les paumes sur poitrine en expirant. Puis en inspirant, on monte les bras au-dessus de la tête. Puis on étire bien, on essaye d'aligner les bras avec les oreilles. Étirez, étirez, restez en poumon plein. Puis expirez, descendez les bras de chaque côté du tronc. On recommence l'exercice, on expire, serrez les paumes sur poitrine. En inspirant, vous montez lentement les bras au-dessus de votre tête. Étirez au maximum, essayez d'aligner les bras avec les oreilles si vous pouvez. Serrez bien les fessiers pour gainer les lombaires, restez en poumon plein. Et en expirant, descendez les bras de chaque côté du tronc. On le fait encore une fois. Inspirez, montez les bras au-dessus de votre tête. Étirez au maximum, serrez le ventre, serrez les fessiers, suspendez le souffle. Puis expirez, descendez les bras de chaque côté. Pareil, c'est un exercice que vous pouvez faire quotidiennement entre 5 et 10 fois. Et maintenant, ceux qui sont debout, eh bien, vous allez vous asseoir sur votre tapis, jambes allongées. Et on va travailler un petit peu les chevilles. Donc, ceux qui sont assis peuvent faire exactement la même chose. On va faire pied flex, pied étiré. Donc flex, c'est-à-dire que vous allez ramener les orteils vers vous au maximum en poussant bien le talon vers l'extérieur. Et étiré, au contraire, vous allongez le pied, la pointe du pied au maximum. Donc une fois, vous ramenez les orteils vers vous, vous poussez bien les talons vers l'extérieur. Et ensuite, vous faites le contraire, vous étirez les pieds, vous allongez au maximum la pointe des pieds. Continuez tranquillement ce mouvement flex, étirer. Et c'est un mouvement que vous pouvez faire tous les jours chez vous une dizaine de fois. Maintenant, on va se concentrer sur la respiration abdominale. Donc, ceux qui sont assis par terre, eh bien, vous allez vous allonger sur votre tapis. Gardez les jambes bien allongées, basculez les pieds sur l'extérieur. Les bras sont le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Pour ceux qui sont assis sur une chaise, vous placez les mains sur les cuisses. Pour tout le monde pareil, vous gardez la tête droite dans l'axe, menton légèrement rentré sur le sternum. En expirant, vous rentrez lentement le ventre. À la fin de l'expiration, vous relâchez le ventre sans prendre d'air. Puis, on inspire. Continuez tranquillement.
Shabba, baby, hi, 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 h
Eh bien voilà, nous allons enchaîner avec la pratique de la méditation bouddhiste tibétaine. J'espère que vous avez bien travaillé votre respiration. Le fait de bien travailler sa respiration abdominale permet aux tensions de tomber. On dit que le souffle et le mental sont étroitement liés. Si on a une respiration rapide, le mental est agité. Si on a une respiration lente, le mental se calme. Et normalement, avant de pratiquer une méditation, eh bien, on devrait commencer déjà à travailler sa respiration abdominale de façon à bien lâcher les tensions et se préparer à être en état d'ouverture. Donc, pour la méditation, on est toujours assis. Donc, ceux qui sont allongés sur leur tapis vont maintenant s'asseoir en tailleur. Vous pouvez placer une petite couverture roulée en boule sous le bassin ou un coussin bien dur et vous posez juste le bord des fesses sur le coussin de façon à vous à aider la bascule du bassin vers l'avant de façon à étirer le dos, à garder le dos droit et les épaules bien ouvertes. On veille aussi à garder la tête bien droite dans l'axe. Menton légèrement rentré sur le sternum. Les yeux sont ouverts de façon à ne pas se couper du monde extérieur. Alors, si vous avez trop d'agitation dans la tête, eh bien, on pose le regard à 45 degrés vers le sol. Si au contraire, vous avez tendance à tomber dans la torpeur, la somnolence, eh bien, vous levez un petit peu le regard. Pour la position des mains, eh bien, on prend la mudra de la méditation bouddhiste tibétaine, c'est-à-dire qu'on place la main droite sur la main gauche, phalange sur phalange, pouce l'un contre l'autre, poignet sur les cuisses. Voilà, là on est bien positionné, le dos est droit, les épaules ouvertes, la tête droite dans l'axe, les muscles du visage relâchés. Et pour cela, il y a une technique. Il suffit de desserrer les dents et de desserrer les lèvres. On laisse passer un léger sourire de façon à bien détendre les muscles du visage. Et on reste ainsi dans cet état de paix, de tranquillité, d'ouverture et on entraîne son esprit à être là, présent à l'instant, sans saisir quoi que ce soit, sans s'accrocher à ce qui s'élève dans notre tête, sans s'accrocher à l'agitation qu'il pourrait y avoir devant nos yeux. On reste tranquille et on voit. On entraîne son esprit à voir tout ce qui se passe déjà à l'intérieur de nous, sans conceptualiser, sans analyser, sans se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou au contraire se laisser entraîner par ce bavardage et partir dans de la rêverie. Donc on essaye de développer la présence à l'instant. Et pareil sur le tableau de la manifestation que nous avons là devant nos yeux et qui change d'instant en instant, eh bien, on le voit, mais on ne s'accroche pas à quoi que ce soit, ni à une mouche qui passe sous nos yeux, ni à la couleur du tableau. On reste comme ça, tranquille, sans commentaire. Pour une fois, on essaye de ne pas porter de commentaires et de jugements sur ce qui se passe. Et c'est cela qui va nous aider à nous détendre, à nous poser et à développer la clarté de l'esprit. Parce que là, eh bien, l'ego, eh bien, il est mis en veilleuse. Et c'est important de le mettre un peu en veilleuse. Parce que tout au long de la journée, il prend toujours toute la place. C'est toujours moi, je. Ce que je pense, c'est la vérité. Ce que je fais, c'est bien. Ce qui ne va pas, c'est l'autre. Et c'est toujours comme ça. Donc là, le fait de s'entraîner à voir sans commenter, sans juger, va nous permettre de voir ce qui se passe de façon claire. Parce que le jeu ne va pas s'en mêler. C'est juste observer pour observer, c'est juste voir pour voir, c'est juste entendre pour entendre, c'est juste sentir pour sentir. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile de comprendre cela intellectuellement. Il faut que ça passe par l'expérience. Comme disent les maîtres, si on vous parle du chocolat, on va vous dire que ça a une couleur noire, que c'est pas beaucoup sucré, que c'est très agréable au goût. Enfin, on va vous décrire le chocolat, mais tant qu'on n'aura pas mangé du chocolat, on ne saura pas ce que c'est que le chocolat. Ce qui se passe en méditation, développer la clarté d'esprit, on ne peut le comprendre que si on le vit. La méditation, c'est du vécu. Donc juste rester là, tranquille, un état d'ouverture. Continuer à rester dans cet état de détente en essayant de développer la présence à l'instant, de voir notre esprit non perturbé, et stable, assis, posé, tranquille. Cet aspect que les maîtres appellent népa, ou bien voir notre esprit en mouvement, c'est-à-dire une pensée qui s'élève, la perturbation qui prend place, puis une autre pensée, et puis encore une autre, et ainsi de suite. Et ça, c'est le deuxième aspect que l'on trouve dans la méditation et que les maîtres appellent jiwa. Et il ne faut pas prendre cet aspect comme un défaut. C'est tout à fait normal. En méditation, notre esprit est tantôt dans le calme, tantôt dans l'agitation. Et on entraîne simplement son esprit à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et ceci va nous permettre de retrouver après dans notre vie au quotidien peut-être plus de distance dans notre vécu. Donc on reste tranquille, posé, et on regarde tout comme d'habitude, mais sans commenter. On voit la vie devant nous qui change d'instant en instant, parce que rien n'est figé. Tout se fait, tout se défait, tout le temps. Tout apparaît, tout disparaît. Tout naît et tout meurt à chaque instant. Et par exemple, si on est en méditation, assis dehors dans son jardin, eh bien, au fil des minutes, on peut voir l'ombre se déplacer. Et ceci, ça fait partie de la vie. Tout est comme ça, tout le temps, et on ne doit pas avoir peur de ce changement. On doit au contraire se laisser porter par cette impermanence. Pour la respiration, c'est pareil. Il y en a inspire, puis un expire, et à nouveau un inspire. Et ça change tout le temps. Un coup, la respiration, elle est longue. Un coup, elle est courte. À un moment donné, elle va être silencieuse. À un moment donné, elle va être un peu bruyante. Et bien, on reste comme ça, complètement disponible, ouvert, en étant ici et maintenant, d'instant en instant. On lâche prise sur l'ego. Et on reste ainsi posé, calme, détendu, et notre esprit est de plus en plus clair, vigilant, notre esprit est de plus en plus ouvert, vivant, et on retrouve cette nature parfaitement claire et pure de notre esprit.
bin bhaye na koi piya bin bhaye na koi piya ke milan ab bani re pahe
Et maintenant, voici la phrase de la semaine, qui est une citation de Jean Leroux d'Alembert. Pour jouir de ce bonheur qu'on cherche tant et qu'on trouve si peu, la sagesse vaut mieux que le génie, l'estime que l'admiration, et les douceurs du sentiment que le bruit de la renommée. Voilà, eh bien, nous arrivons au bout de votre émission Namasté, émission que vous pouvez retrouver tous les lundis à 20h, mais aussi tous les dimanches à 9h, et aussi sur Internet. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous recherchez CFM Radio Villefranche, et vous cliquez sur Namasté. Pour les exercices d'étirement et de respiration, vous pouvez toujours aller sur mon site qui est étirementyogaaveyron.com. ou bien venir me rencontrer dans mon atelier à Villefranche de Rouergue qui se situe 6 rue de la Treille. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt, j'espère.
Thank you. इश्क तो मेरा खुदा है, आशिक मेरा नाम है।